Accent d'Europe, Laurent Berthoud.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui parle de la vie quotidienne des Européens avec aujourd'hui des victimes de torture qui essaient de se reconstruire à Paris, 20 ans de libre circulation en Europe, de jeunes Européens qui partent tenter leur chance au Qatar, 1992, une série télé italienne sur l'opération Main Propre, mais tout d'abord, les obsèques de Richard III à Londres. Il aura fallu attendre 530 ans, mais Richard III a enfin reçu un adieu digne d'un roi. Les cérémonies qui se sont déroulées tout au long du cortège, en menant le souverain jusqu'à sa dernière demeure, se sont achevées ce jeudi matin. C'est ainsi la fin d'un long périple depuis que ses ossements avaient été retrouvés par une équipe d'archéologues sous un parking municipal de la ville de Leicester en 2012, Marie Billon.
Il a beau être mort depuis plus d'un demi-millénaire, en quelques mois, feu Richard III a vécu une véritable épopée. De roi détesté à la sépulture introuvable, il est devenu un objet d'études archéologiques, de curiosités scientifiques et historiques, et un trésor national. Et le voilà redevenu roi, digne d'une sépulture avec tous les honneurs. Sa dépouille a été inhumée en la cathédrale de Leicester, en présence de représentants de la famille royale et des plus hauts dignitaires religieux, épisode qui clôt une série qui a tenu en haleine tous les Anglais. Les cérémonies ont commencé dimanche dernier, dans un cercueil pesant 110 kilos et construit par son arrière-petit-neveu au 17e degré. Les ossements royaux ont quitté l'université de Leicester en grande pompe pour rejoindre le champ de bataille où Richard III est mort le 22 août 1485. Le cortège solennel est ensuite passé par plusieurs villages, ceux que son corps au corps chaud avait certainement déjà traversé, sauf qu'à l'époque, il était nu, jeté sur le dos d'un cheval, humilié par les vainqueurs, les Tudors. 530 ans plus tard, c'est sur un fût de canon que ses restes ont été escortés par des chevaliers en armure. À son passage, des milliers de badauds ont jeté des roses blanches, symbole de sa famille. La procession est ensuite arrivée à la cathédrale où s'est tenu un service mêlant éléments catholiques, la religion de Richard III et anglican, la religion d'État aujourd'hui. Clou du spectacle quand l'archéologue représentant l'université qui a fait les fouilles a donné au doyen de la cathédrale de Leicester le certificat d'inhumation. Richard III a alors définitivement quitté les laboratoires pour redevenir une page de l'histoire. Sa tombe est désormais donc un bloc de marbre sortant de terre marqué par une croix. Il ne sera donc plus possible de marcher ou même de rouler sur la tombe du roi comme c'était le cas tous les jours pendant des années quand il était encore sous le parking municipal qui est d'ailleurs à quelques mètres seulement de la cathédrale.
Comment se reconstruire quand on a vécu la torture ? À Paris, le centre Primo Levi, du nom du célèbre écrivain italien déporté à Auschwitz, est spécialisé dans l'accueil de ces personnes qui vivent au quotidien avec ces traumatismes nés d'emprisonnement arbitraire, de violences physiques ou psychologiques. Chaque année, près de 300 patients poussent les portes de ce centre situé dans l'est parisien. Ils viennent essentiellement d'Afrique subsaharienne, mais aussi des Balkans, du Moyen-Orient et plus récemment de Syrie. Le reportage de Nicolas Feldman au sein de cet institut qui a 20 ans cette année, une triste longévité qui rappelle que son travail est plus que nécessaire.
Le passé douloureux de Pasquale Paty se lit sur les traits tirés de son visage. Il y a 2 ans, il a été jeté dans une prison de République démocratique du Congo et torturé pendant une semaine.
J'étais militant normal comme tous les militants dans un parti. Comme il y a encore la dictature au niveau de notre pays en Afrique. On nous a arrêtés, et on était presque 20 personnes comme ça. Ils nous ont emprisonnés pendant une semaine comme ça. Et puis vers le soir, par des agents, je ne sais pas, ils venaient d'où, ils nous ont fait évader vers les Congo-Brazzaville. Et puis je me suis retrouvé en France.
Pasquale dort depuis à Paris, dans un dortoir du centre d'hébergement d'urgence, au milieu d'une centaine d'autres réfugiés. S'il a réussi à fuir son pays, il a aussi emporté avec lui les souvenirs de cette semaine de sévices subis en prison.
Il y a des moments que je ne dors pas, il y a des angoisses tout le temps. Je n'avais pas de morale, mais ces derniers temps, il y a un changement.
Ce changement, il le doit en partie au centre Primo Levi. En 2013, les médecins l'ont reçu et ont décelé en lui tous les symptômes d'une victime de torture. Depuis, il s'y rend gratuitement une à trois fois par semaine. Aujourd'hui, Pascual a rendez-vous avec l'un des médecins du centre, Agnès Afnaïm.
Monsieur Paty, je vous ai vu il y a trois jours parce que... voilà, c'était toujours ça qui vous disait. C'est votre tout. Moi, j'ai pas l'intention de vous redonner des antibiotiques. On va juste essayer, avec des moyens qui diminuent l'inflammation de vos bronches, d'essayer... de faire diminuer ça, et puis quand le temps se mettra au sec et au chaud, ça ira mieux.
Agnès Afnaïm soigne les maux du corps et avec eux, elle s'attaque aussi à ceux de l'esprit. Elle voit défiler la quasi-totalité des 300 patients pris en charge chaque année dans le centre.
Ce qui est assez typique dans le parcours des patients, c'est qu'ils ont vécu des violences, des tortures, la guerre, et ils ont des manifestations physiques, mais surtout psychiques, qui émanent des violences passées. Le retour permanent... des images, des impressions, des sensations, ça reste d'une manière durable. On essaye de renouer du lien, réinstaurer la possibilité de la confiance en l'autre qui a été ravie par le fait d'avoir été torturé par un autre semblable qui avait la volonté de détruire l'humanité en elle. Et puis bon, de soulager, évidemment soulager.
Soulager le patient en l'aidant à mettre des mots sur sa souffrance, c'est l'une des missions d'Armando Côté. Il est psychologue au centre Primo Levi depuis 10 ans.
Notre but, c'est surtout qu'à partir de la parole, qu'il soit plus envahi par cette histoire du passé, d'année présente. La parole qui est dite à cet endroit va rester là. C'est garanti, déjà, ça permet pour eux d'à nouveau reprendre un espace d'intimité qui, la plupart de ces personnes, sont déjà perdues depuis longtemps.
Et si au centre, on insiste sur le fait qu'il est impossible pour une victime de torture d'oublier, l'expérience d'Agnès Afnaïm montre qu'il existe un remède très efficace pour aider ces personnes qui arrivent souvent en France sans aucun statut.
Le fait d'avoir des papiers, ça c'est vachement thérapeutique. Et donc les gens qui vont le mieux, c'est ceux qui ont pu obtenir le droit d'asile et qui ont des papiers et qui peuvent faire une formation, travailler, rencontrer quelqu'un, devenir père ou mère de famille. Voilà. Et heureusement, il y en a quand même beaucoup.
Si le centre est spécialisé dans l'accueil des patients, il reçoit aussi régulièrement des professionnels qui essaient ensemble de trouver des clés pour mieux communiquer avec les victimes de torture. Au programme du jour, comment traiter la pulsion de mort et le suicide? Autour de la table, des juristes, des assistantes sociales, des éducateurs et Stéphania, 28 ans. Elle travaille à la Croix-Rouge dans le service chargé de rétablir un lien entre les familles séparées par les conflits.
Ces soirées-là, je pense que sont vraiment utiles pour comprendre le cadre général de ce qu'ont vécu les personnes que l'on rencontre. Ça permet quand même d'avoir certaines intuitions quand je suis en face-à-face ou au téléphone avec les bénéficiaires qui me permettent de mieux faire au quotidien.
Et depuis 2002, plus de 3000 professionnels d'horizons divers sont venus chercher conseil auprès du centre Primo Levi. Une façon pour ces professionnels d'apprendre à ceux qui en ont besoin à vivre avec leur passé et ainsi leur permettre enfin de se tourner vers l'avenir.
Les jeunes européens.
La chronique.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Laurent.
Les pays du Golfe font souvent parler d'eux en Europe quand il s'agit de vanter leur croissance économique insolente ou leurs investissements faramineux sur le continent européen. Ce que l'on sait moins, c'est qu'en retour, de plus en plus de jeunes Européens décident de tenter l'aventure là-bas, où beaucoup reste à faire. Dubaï hier, aujourd'hui le Qatar. Alors, est-ce que l'on peut parler de nouveaux Eldorado, Eve?
On n'aura jamais autant entendu parler du Qatar ces dernières années. D'abord parce que le pays a racheté en France l'un des plus grands clubs de foot, le PSG, et remporté l'organisation de la Coupe du Monde de football en 2022. Rien que cela a permis à ce petit pays des Émirats Arabes Unis de faire la une des journaux en Europe. Et donc, vous l'avez dit, le Qatar a le vent en poupe, y compris chez les jeunes Européens. Il se classe de mieux en mieux parmi les destinations préférées des jeunes diplômés désireux de s'expatrier, Britanniques et Français en tête.
Alors, la question, que vont-ils chercher là-bas?
Et sans surprise, hein, c'est du travail qu'ils vont chercher. À Doha, Doha, la capitale, le recrutement est constant, permanent. Projets immobiliers, hôtellerie de luxe, restauration, mais aussi structures financières, établissements de santé. Sur 2 millions d'habitants, le Qatar n'a qu'un quart de nationaux et ne cesse de faire appel à la main-d'œuvre diplômée d'origine étrangère.
Quel est le profil de ces jeunes Européens qui vont tenter l'aventure ?
Eh bien, ce sont d'abord des jeunes qui n'ont pas peur de travailler en anglais, l'anglais qui est indispensable, mais le français est aussi très apprécié et l'arabe est un véritable plus sur les CV. C'est ainsi que de nombreux jeunes français parlant arabe ont un avantage, là où ils continuent parfois en France d'être stigmatisés et discriminés à cause de leur prénom ou de leur origine. Ces nouveaux pays en développement fulgurant leur offrent donc des possibilités de carrière inespérées, là où la vieille Europe n'a pas grand-chose à leur proposer. En quelques années, ils peuvent espérer doubler ou tripler leur salaire jusqu'à atteindre des rémunérations à 5 chiffres.
Du soleil, du travail, des salaires élevés, sur le papier ça fait rêver. J'imagine que tout n'est pas aussi simple.
Il faut bien avouer que sur les forums, les témoignages positifs sont beaucoup plus nombreux que les grosses désillusions. La plupart des expatriés francophones ou européens ne semblent pas regretter leur choix. Reste qu'il faut bien préparer son départ, et ça tout le monde le dit. Bien étudier l'offre d'emploi qui permettra de décrocher le sésame, le visa, car votre recruteur deviendra votre sponsor et sera responsable de vos entrées et sorties sur le territoire. Scrutez les garanties du contrat de travail, donc également les avantages en nature, prise en charge par exemple des frais de santé, du loyer, des déplacements, et surtout de ces conditions de rupture. Car en effet, en cas de litige, votre employeur qatari peut vous empêcher de partir, donc de quitter le territoire. C'est ce que l'on appelle le travel ban.
Oui, et ça, il faut bien l'avoir en tête avant de postuler et ne pas se retrouver coincé sur place. Il faut aussi que ces jeunes anticipent les conditions et les modes de vie sur place qui, j'imagine, peuvent différer beaucoup des nôtres.
Oui, sachez d'abord que si vous désirez venir tenter votre chance sur le sol qatarien en couple, il vous sera préférable de vous marier, car l'union libre ne fait pas vraiment partie des mœurs. Sachez également que les expats sur place ne comptent pas leurs heures de travail, même s'il existe une durée maximale légale hebdomadaire de 48 heures. Bref, le Qatar et les autres pays du Golfe offrent de belles opportunités, c'est sûr, représentent souvent une belle première destination pour les jeunes diplômés qui veulent accumuler de l'expérience avant de rentrer ou de repartir ailleurs.
Merci Eve Minot, à la semaine prochaine dans Accent d'Europe.
À la semaine prochaine.
Ce que je fais là, moi, je sais pas. Je voulais juste marcher tout droit. Ce que je fais là, moi, je sais pas.
Schengen a 20 ans. Le 26 mars 1985, 10 ans après la signature des accords de Schengen, les citoyens européens étaient autorisés à circuler librement dans cet espace et même à s'installer dans un autre pays. Plus de contrôle, plus de frontières. Mais aujourd'hui, ces accords sont remis en cause face à la menace terroriste. Katia Beach s'est rendue à la frontière entre la France et l'Allemagne. De Breisach en Allemagne à Neuf-Brisach en France, il n'y a qu'un pont.
Traverser le pont entre la France et l'Allemagne, aujourd'hui, rien de plus simple.
Ben voilà, on est en Allemagne.
Élodie, 20 ans, n'est même pas surprise de ne pas avoir eu à présenter son passeport.
Ben pourquoi ? Pourquoi on devrait s'arrêter à la douane ? Je vois pas trop le principe.
La libre circulation est entrée dans les mœurs. Pourtant, il y a 20 ans, les choses étaient bien différentes. Retour côté français.
Bonjour.
Gilles Lagneau est agent des douanes. Il a travaillé ici pendant 10 ans, avant que le poste frontière ne soit démoli, remplacé par un joli parc arboré et un parking de covoiturage.
Ça a énormément changé. Plus personne ne s'arrête. La frontière physique, disons, se trouve au milieu du pont, qui est juste devant nous. Si vous voulez, on peut
aller y
faire un petit tour.
D'accord, avec plaisir.
Une très très bonne relation avec nos collègues des douanes allemandes. Une fois ou deux par an, on se rencontrait pour faire une petite fête ensemble ou quelquefois pour faire un beau match de football.
Côté allemand, en lieu et place de l'ancien poste frontière, il y a désormais un petit café. Et il n'y a pas que le paysage qui a changé. Le métier d'agent des douanes a lui aussi beaucoup évolué. Les patrouilles sont désormais mobiles et Gilles Lagneau reconnaît qu'il faut être davantage sur ses gardes.
Il est vrai qu'il y a une dangerosité qui est beaucoup plus importante au niveau des contrôles mobiles qu'au niveau des contrôles frontières. Autrefois, donc avant 1995, quand ils arrivaient arrivait à la frontière, ils savaient que la douane, la police était présente. Donc leur réaction était complètement différente par rapport à aujourd'hui où on va faire un contrôle auquel ils vont pas s'attendre. Et voilà, quelle sera leur réaction, hein. C'est toujours un petit peu la question qu'on se pose.
Moins de bureaucratie, moins de formulaires de dédouanement et donc plus de temps pour le travail d'enquête. Gilles Lagneau a dû apprendre un tout autre métier.
On utilise maintenant énormément l'informatique. On fait des recoupements de données, on fait des statistiques. On a des systèmes de ciblage qui sont mis en place. Et globalement, par rapport à ce que j'ai pu connaître avant 1993-1995, aujourd'hui, on a de meilleurs résultats au niveau national sur les saisies que ce qu'on pouvait avoir à l'époque, où c'était surtout des constatations de la petite fraude locale, souvent, qui avait une faible importance. On arrive tout aussi bien aujourd'hui à contrôler, disons, les grandes fraudes internationales.
Le service des douanes a donc gagné en efficacité, surtout grâce au service informatisé Schengen, un fichier commun qui permet à tous les services de sécurité d'avoir accès et de partager des informations sur les objets volés ou sur des personnes recherchées ou interdites de séjour. Pourtant, selon un récent sondage, 6 Français sur 10 pensent que les frontières ne sont pas assez contrôlées. C'est l'avis de Frédéric, il est chauffeur poids lourd international.
Il y avait des frontières avant, on arrivait au moins à voir qui rentrait dans le pays et ce qu'ils avaient dans les coffres. Alors qu'actuellement, n'importe qui peut passer les frontières et ça ne dérange pas d'attendre pour passer une frontière si on peut au moins savoir qui rentre dans notre pays. Ce qui en rentre et ce qui en sort d'ailleurs. Tous les pays de l'Est, là, ouais, ceux-là, ils ramènent... des cartouches, ils les cachent partout, des cartouches de cigarettes. C'est vrai que là, ceux-là, ils font pas mal de trafic, quoi. Et peut-être pas que sur les cigarettes, quoi.
Les accords de Schengen prévoient pour les États membres la possibilité de rétablir les contrôles aux frontières nationales pour une durée maximale de 6 mois en cas d'atteinte ou de menace à la sécurité du pays. La Pologne, organisatrice de l'Euro 2012, avait rétabli les contrôles le temps de l'événement. Et en décembre prochain, par exemple, les contrôles aux frontières seront rétablis en France lors de la conférence internationale sur le climat à Paris. Depuis les attentats en Europe, des voix s'élèvent pour alléger les critères de rétablissement de ces contrôles. Mais pour le Parlement européen, cette possibilité doit rester une exception pour ne pas mettre à mal 50 ans d'intégration européenne.
Mi dispiace, ma il suo assistito è in arresto per concussione.
En Italie, la classe politique ne parle que de ça cette semaine. La nouvelle série télé 1992 sur le scandale Main Propre. Une série entre fiction et réalité. Alors l'histoire, on la connaît, se déroule à Milan en 1992, année charnière pour l'Italie. Pour l'instant, la série est déclinée en une saison de 10 épisodes. Succès attendu après celui de Romanzo Criminale et Gomorra dans le monde entier, Mathilde Villain.
1992 commence sur une scène choc. Des billets de 100 000 lire régurgités par la cuvette d'un WC dans un hôtel de luxe de Milan. Comme un reflux de la conscience collective, la série mêle en effet réalité et fiction. Et le 17 février 1992, l'ingénieur Mario Chiesa aurait bel et bien cherché à faire disparaître 37 millions de lire dans les toilettes pour échapper aux griffes du juge Antonio Di Pietro. Mario Chiesa était un entrepreneur, membre du Parti Socialiste, pilier d'un système de financement occulte de la politique. Son arrestation a marqué le début du scandale Manipulite, main propre, et surtout un tournant dans l'histoire de l'Italie. Le futur n'a pas encore été écrit, c'est le slogan de la série, et pourtant, la télévision semble régurgiter toujours la même histoire. Pas un journal télévisé sans un maxi-scandale de corruption à Venise, Rome, Milan, zappé, et voilà une série télé sur le maxi-scandale de corruption qui a changé l'histoire du pays. En matière de série télé sur la mafia, les Italiens sont experts. Romanzo Criminale revisite les années noires de Rome, gangrénées par la mafia de la bande de la Magliana. Gomorra met en scène le pire visage du crime organisé à Naples. Et donc, voici la mafia en col blanc dans 1992. Détail intéressant, ces séries italiennes à succès sont toutes produites et diffusées par le groupe Sky, propriété de Rupert Murdoch, pire concurrent et ancien ennemi juré d'un autre mania des médias, Silvio Berlusconi.
Et c'est la fin d'Accent Europe, une émission réalisée et mise en onde par Françoise Grelot. On se retrouve demain dès 12h40 en universel.
cinéma du monde, Elisabeth.